Premier jour. 13 mai 2010. Moulin des Chenevières. Testament. Chapitre 82. J'attends dans le salon du Moulin des Chenevières. Le médecin est dans la pièce d'à côté, dans la chambre, avec Jacques. Je l'ai appelé en catastrophe vers 4 heures du matin. Jacques se tordait de douleur dans les draps, comme si son cœur ralentissait, comme un moteur sans essence qui tousse avant de s'arrêter, comme si le sang allait cesser de circuler. Lorsque j'ai allumé la lampe de la chambre, ses bras étaient blancs, striés de veines bleu clair. Le docteur Berger est arrivé quelques minutes plus tard. Il peut. Il a monté son cabinet à Vernon, rue Bourbon-Penthièvre, mais a acheté une des plus belles villas sur les bords de Seine, un peu après Giverny. Le docteur Berger est sorti de la chambre une bonne demi-heure plus tard. Je suis assise sur une chaise, à ne rien faire, juste à attendre. Le docteur Berger n'est pas du genre à prendre des pincettes. C'est un sale con qui a construit sa véranda et creusé sa piscine sur le dos de tous les vieux du canton. Mais son franc-parler, au moins, c'est une qualité qu'on ne peut pas lui retirer. C'est pour cela qu'on l'a pris comme médecin de famille, depuis des années, lui ou un autre. C'est la fin, Jacques a compris. Il sait qu'il lui reste, au plus, quelques jours. Je lui ai fait une intraveineuse. Il va aller mieux quelques heures. J'ai appelé l'hôpital de Vernon. Ils ont réservé une chambre. Ils envoient une ambulance. Il reprend sa petite mallette en cuir. Semble hésiter. Il demande à vous voir. J'ai voulu lui donner quelque chose pour le faire dormir, mais il a insisté pour vous parler. Je dois avoir l'air étonné, plus étonné que bouleversé. Berger se croit obligé d'ajouter. « Et vous, ça va aller? Vous allez tenir le coup? Vous voulez que je vous prescrive quelque chose ?»« ça va, merci. » Je n'ai qu'une hâte maintenant, qu'il sorte. Il jette un nouveau regard à travers la pièce sombre, puis pose un pied dehors. Il se retourne une dernière fois avec une mine affectée. Il a presque l'air sincère. Peut-être que perdre un bon client, ça ne le fait pas rire. Je suis désolée. Bon courage, Stéphanie. J'ai lentement marché vers la chambre de Jacques, sans une seconde imaginer ce qui m'attendait. La confession de mon mari. La vérité. Après toutes ces années. L'histoire était si simple, en fait. Un seul tueur, un seul mobile, un seul lieu, une petite poignée de témoins. Le tueur frappa 2 fois, en 1937 et 1963. Son seul but était de conserver son bien, son trésor. La vie d'une femme, de sa naissance à sa mort. Ma vie. Un seul criminel, Jacques. Jacques me donna toutes les explications. Rien ne manqua. Ces derniers jours, mes souvenirs ont sauté d'une époque à l'autre de ma vie, tel un kaléidoscope incompréhensible. Pourtant, chacun de ces détails n'était que le rouage d'un engrenage précis, d'un destin minutieusement aiguillé par un monstre. C'était il y a 13 jours. Ce matin-là, j'ai poussé la porte de la chambre de Jacques, sans savoir que je la refermais sur les ombres de mon destin. Définitivement. Approche, Stéphanie. « Approche-toi du lit. » Le docteur Berger a glissé 2 gros oreillers sous le dos de Jacques. Il est plus assis que couché, Le sang qui afflue vers ses joues contraste avec la pâleur de ses bras.
Approche, Stéphanie. Berger t'a dit, je suppose. On va devoir se quitter. Bientôt. C'est... Il faut que je te dise. Il faut que je te parle pendant que j'en ai la force. J'ai demandé à Berger de me donner un truc qui me permette de tenir le coup avant que l'ambulance arrive.
Je m'assois sur le rebord du lit. Il glisse une main ridée le long des plis du bras. Les poils de son bras sont rasés sur 10 centimètres autour d'un épais pansement beige. Je prends sa main.
Stéphanie, dans le garage, dans le cellier, il y a tout un tas d'objets auxquels on n'a pas touché depuis des années. Mes affaires de chasse, par exemple, des vieilles vestes, un sac, des cartouches mouillées, mes bottes aussi, des vieux trucs moisis. Tu vas les soulever, tu vas tout retirer. Ensuite, tu vas écarter avec tes pieds le gravier par terre. Juste en dessous, tu vas voir, il y a une sorte de trappe. Un vide sanitaire, quelque chose comme ça. On ne peut pas la voir si on ne retire pas tout ce qu'il y a dessus. Tu vas lever la trappe. Tu ne peux pas la rater. Dedans, tu trouveras un petit coffre. Un coffre en aluminium, de la taille d'une boîte à chaussures. Tu vas me la porter, Stéphanie.
Jacques me serre la main assez fort, puis la lâche. Je ne comprends pas tout, mais je me lève. Je trouve cela étrange. Ce n'est pas le genre de Jacques, les mystères et les jeux de piste. Jacques est un homme simple, lisse, sans surprise. Je me demande même si le docteur Berger n'y est pas allé un peu trop fort avec ses médicaments. Je reviens quelques minutes plus tard. Toutes les indications de mon mari étaient rigoureusement exactes. J'ai trouvé le petit coffre en aluminium. Les jointures sont rouillées. La tôle brillante est piquée un peu partout de taches sombres. Je pose le coffre sur le lit.
Il est fermé par un cadenas, dis-je. Je sais. Merci. Stéphanie, il faut que je te pose une question. Une question importante. Je ne suis pas très douée pour les discours, tu me connais. Mais il faut que tu me dises. Stéphanie, toutes ces années as-tu été heureuse à mes côtés?
Qu'est-ce que vous voulez répondre à cela? Que voulez-vous répondre à un homme qui n'a plus que quelques jours à vivre? Un homme dont vous avez partagé la vie plus de 50 ans, 60 peut-être? Qu'est-ce que vous voulez répondre d'autre que
« Oui, oui, Jacques. Bien entendu, Jacques, j'ai été heureuse toutes ces années à tes côtés. »
Ça ne semble pas lui suffire.
Maintenant, Stéphanie, on est au bout de la route. On peut bien tout se dire. As-tu des regrets? Penses-tu, je ne sais pas, que ta vie aurait pu être meilleure si elle s'était passée autrement, ailleurs, à... Il hésite, déglutit, avec quelqu'un d'autre.
J'ai l'impression étrange que Jacques a pensé et repensé dans sa tête ces questions des milliers de fois pendant des années, qu'il a juste attendu le bon moment, le bon jour pour les poser. Pas moi. Non pas que je ne me sois pas posé ces questions, mon Dieu, oh que non. Mais je suis une vieille femme maintenant. Je ne me suis pas préparée à cela en me levant ce matin. Les brumes se dispersent lentement désormais dans mon esprit fatigué. Moi aussi, j'ai patiemment enfermé ce genre de questions dans un coffre et je me suis efforcée de ne jamais le rouvrir. J'ai égaré la clé. Il faudrait que je cherche. C'est si loin.
« Je ne sais pas, » réponds-je. « Je ne sais pas, Jacques. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. »
« Si, Stéphanie. Bien entendu que tu comprends. Stéphanie, il faut que tu me répondes. C'est important. Aurais-tu préféré une autre vie ?»
Jacques me sourit. Un sang rose colore maintenant l'ensemble de son visage jusqu'au haut de ses bras.
Efficace, les pilules de berger. Et pas que sur la circulation sanguine. Jamais, en 50 ans, Jacques ne m'a posé ce genre de questions. Ça ne ressemble à rien, ni à lui, ni à rien.
Est-ce une façon de finir sa vie ? À plus de 80 ans, demander à l'autre, celle qui reste, si toute sa vie est bonne à jeter à la poubelle. Qui pourrait répondre oui à cela ? Qui pourrait répondre oui à son conjoint mourant, même s'il le pense, surtout s'il le pense ?
Je sens le piège, sans encore que je sache pourquoi. Je sens que toute cette mise en scène pue le piège.
Quelle autre vie, Jacques ? De quelle autre vie parles-tu ?
Tu n'as pas répondu, Stéphanie. Aurais-tu préféré ?
L'effluve empoisonnée du piège se fait plus évident encore, comme un parfum lointain qui me revient. Une oppressante odeur familière, évanouie depuis longtemps, mais jamais oubliée. Je n'ai pas d'autre choix que de répondre avec une tendresse d'infirmière.
J'ai eu la vie que j'ai choisie, Jacques, si c'est ce que tu veux entendre, celle que je méritais. Grâce à toi, Jacques, grâce à toi.
Jacques souffle comme si Saint-Pierre venait en personne de lui annoncer que son nom était sur la liste des entrants au paradis. Comme si, maintenant, il pouvait s'en aller serein. Il m'inquiète. Sa main se redresse et tâtonne sur la table de chevet, à la recherche de je ne sais quel objet. Il heurte le verre posé qui tombe sur le sol et se brise. Un mince filet d'eau coule sur le parquet. Je me redresse pour essuyer, ramasser les éclats de verre, lorsque sa main se lève encore.
Attends, Stéphanie. Un simple verre brisé, ce n'est pas grave. Aide-moi, regarde dans mon portefeuille, là, sur la table de chevet.
Je m'avance, le verre crisse sous mes pantoufles.
Ouvre-le, continue Jacques. À côté de ma carte de sécurité sociale, il y a ta photographie, Stéphanie. Tu la vois ? Passe ton doigt sous la photo.
Il y a une éternité que je n'ai pas ouvert le portefeuille de Jacques. Mon image m'explose au visage. La photographie a dû être prise il y a au moins 40 ans.
Est-ce moi ? M'appartenaient-ils ces immenses yeux mauves ? Ce sourire en cœur ? Cette peau nacrée sous le soleil d'une belle journée à Giverny ? Ai-je oublié à quel point j'étais belle ? Faut-il attendre d'être une octogénaire ridée pour enfin oser se l'avouer ? Mon index s'introduit sous la photographie. Il fait glisser une petite clé plate.
Je suis rassurée maintenant, Stéphanie. Je peux mourir en paix. Je peux te le dire désormais. J'ai douté. J'ai tant douté. J'ai fait ce que j'ai pu, Stéphanie. Tu peux ouvrir le cadenas du coffre avec la clé. Cette clé qui ne m'a jamais quittée depuis toutes ces années. Tu vas comprendre, je pense. Mais j'espère pouvoir tenir le coup pour t'expliquer moi-même.
Mes doigts tremblent maintenant, beaucoup plus que ceux de Jacques. Un terrible sentiment m'oppresse. Je peine à faire entrer la clé dans le cadenas, à la tourner. Il me faut de longues secondes avant que le cadenas et la clé ne tombent sur les draps du lit.
Jacques pose encore doucement sa main sur mon bras, comme pour me signifier d'attendre encore un peu. Tu méritais un ange gardien, Stéphanie. Il s'est trouvé que c'était moi. J'ai essayé de faire mon travail du mieux possible. Ça n'a pas toujours été facile, crois-moi. J'ai parfois craint de ne pas y arriver. Mais tu vois, au bout du compte, tu m'as rassurée. Je ne m'en suis pas si mal sortie. Tu te souviens, Les yeux de Jacques se ferment une longue seconde. Ma Fanette, après toutes ces années, une dernière fois, tu acceptes que je t'appelle Fanette? Je n'ai jamais osé, depuis plus de 70 ans, depuis 1937. Tu vois, je me souviens de tout. J'ai été un ange gardien obéissant, fidèle, organisé.